8h, c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Frédéric Vidal remet une pièce dans la machine ce matin sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Il y aura bien une enquête, dit la ministre dans la presse, malgré le tollé. De l'azur au rouge, Nice, cinquième ville de France, sous cloche à l'heure du carnaval. Les compteurs Covid s'affolent dans le département. Va-t-on vers un confinement local, partiel, que le week-end? Ce serait une première en France, le préfet tranche d'ici ce soir. Et puis le Niger, second tour de la présidentielle. Le bol d'air sous le soleil exactement de l'île de Ré. Les sports, Djokovic, Medvedev, en finale de l'Open d'Australie d'ici une petite heure et demie. Et puis les pires perdants du top 14, c'est Agen et c'est l'esprit sport à la fin du journal.
À 8h20, nous allons recevoir le philosophe et romancier Charles Pépin. Il vient de publier La Rencontre, une philosophie. Ça paraît aux éditions Alary.
France Inter. Il y aura bien une enquête sur les atteintes à la laïcité dans les facs. Frédéric Vidal persiste et signe après avoir évoqué l'islamo-gauchisme qui gangrène les universités françaises. La voici dans une interview au journal du dimanche ce matin, dans un numéro d'équilibriste. La ministre de l'enseignement supérieur reste droite dans ses bottes et tente en même temps de calmer le jeu. Maureen Signard.
Ce que je souhaite, c'est que l'on relève le débat, assure ce matin la ministre. L'islamo-gauchisme n'a pas de définition scientifique, dit-elle, mais il correspond à un ressenti de nos concitoyens. Frédéric Vidal assume donc ses propos et demande de nouveau un état des lieux de la recherche à ce sujet en France. Selon elle, une enquête au sens sociologique du terme sera menée par les universités elles-mêmes. Elle dit vouloir une approche rationnelle et scientifique du sujet. Frédéric Vidal tente par là de calmer le jeu, de dépolitiser le débat. Personne n'est plus attaché que moi à l'indépendance des enseignants-chercheurs, se défend la ministre qui estime que la recherche est grande lorsqu'elle est libre. La lutte contre l'islamo-gauchisme n'est pas le cœur de son action, selon elle. Sa priorité et celle d'Emmanuel Macron, c'est la situation des étudiants et la pandémie. C'est de ça que je parle au président de la République, dit-elle encore. La ministre qui conserve pour le moment le soutien du président, mais l'incendie n'est peut-être pas encore éteint.
Frédéric Vidal qui pourra toujours compter aussi sur le soutien de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, affirmait encore hier que l'islamo-gauchisme était bien un phénomène social indubitable. Pas sûr que ça apaise les esprits. Hier, 600 chercheurs et présidents d'universités ont réclamé la démission de Frédéric Vidal dans une tribune publiée par Le Monde et dénoncé des représentations caricaturales des arguties de café du commerce, fermez les guillemets. Caroline Ibos, maître de conférence à Rennes 2, s'explique au micro de Thibaut Cavaillès.
Ce qu'elle devrait faire en ce moment, c'est soutenir les étudiants, c'est nous soutenir et au lieu de cela, alors que la France a un budget de recherche ridicule, elle vient dire qu'elle veut faire une enquête pour islamo-gauchisme. C'est d'une violence, c'est de la diffamation. À quelle fin? Quel est le but? Elle nous accuse sans preuve. Elle prend un mot qui est un mot politique, un mot du répertoire de l'extrême droite. D'ailleurs, elle a été saluée par le Rassemblement National. Elle prend un mot pour disqualifier des études qui sont minoritaires. Donc c'est indigent, intellectuellement c'est tout à fait indigent. Ça veut dire juste qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans ces champs de recherche. Et c'est un peu embêtant quand on est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce qu'elle peut nous produire, publier dans une revue scientifique un seul article qui fait l'apologie de l'islam politique? Elle cherche à accuser une profession qui est en charge de la pensée critique. Donc on demande sa démission parce qu'elle est allée trop loin.
Voilà la colère de Caroline Ibos, signataire de la tribune dans Le Monde contre Frédéric Vidal aux côtés de Thomas Piketty ou encore de la sociologue Dominique Méda. Le CNRS de son côté a rappelé que le terme d'islamo-gauchisme n'avait aucune réalité scientifique.
C'est la question du jour, Hélène. Va-t-on vers un reconfinement local dans les Alpes-Maritimes?
À Nice, c'est la promenade du variant anglais. L'épidémie flambe avec un taux d'incidence, de circulation du virus de 700 cas pour 100 000 habitants. C'est trois fois plus que la moyenne nationale. Niveau record de contamination donc dans tout le département, avec de nouvelles restrictions attendues d'ici ce soir. Hier, les élus locaux se sont longuement réunis et ont fait des propositions. Alexandra Valetta-Ardisson, députée En Marche des Alpes-Maritimes.
Il y a cinq pistes majeures, j'allais dire, qui sont sorties. La première étant le port du masque général sur l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes, qui n'est pas le cas actuellement. Le renforcement des contrôles, car nous ne respectons pas toujours le port du masque. On a demandé aussi à revoir la jauge pour les centres commerciaux, parce que c'est un vrai sujet pour les Alpes-Maritimes, de façon unanime. On a dit que nous ne souhaitions pas un reconfinement général, mais on a proposé effectivement un confinement ciblé sur le week-end et uniquement sur la zone urbaine, à savoir le littoral, parce que c'est là où se concentre la grande majorité de la population du département et les touristes, parce que je rappelle que nous sommes en vacances scolaires. Et autre mesure que nous avons proposée, c'est l'interdiction des entrées dans le département, sauf motif impérieux.
Confinement partiel et ciblé, donc le week-end, interdiction d'entrée dans le département. Le préfet doit trancher dans les heures qui viennent. Christian Estrosi, le maire de Nice, lui, n'a pas attendu pour mettre la pression. La police municipale envoyée hier pour tapage nocturne dans une location saisonnière. 8 personnes, toutes verbalisées, et le maire a voulu le faire savoir. Tweet hier soir. En attendant un confinement local, si ça se confirme, ce serait du jamais vu en France. De quoi peut-être ouvrir la brèche, surtout quand on voit que d'autres départements dépassent le seuil d'alerte. Le Nord et la région parisienne notamment sur la liste. Alors que le vaccin AstraZeneca lui arrive cette semaine chez les généralistes, sera-t-il suffisant pour donner un coup de fouet à la campagne alors que moins de 2% de la population a reçu les deux doses? C'est toute la question. À l'échelle européenne aussi, ça tourne au ralenti. 4% d'habitants vaccinés contre 12 aux États-Unis ou 23 au Royaume-Uni. Thierry Breton, chargé d'accélérer la fabrication dans l'Union, veut y croire ce matin dans Le Parisien. Il espère que l'Europe saura produire 2 à 3 milliards de doses par an d'ici la fin de l'année. Mais sur la liste des pays champions de la vaccination, Israël, sans aucun doute, arrive en tête. Et le ministère de la Santé, comme une lueur d'espoir, dévoile des chiffres spectaculaire ce matin sur le Pfizer. Efficace, dit-il, à 96% pour prévenir la contamination, à 99% pour éviter les victimes et prévenir les formes graves. Israël, qui d'ailleurs se déconfine aujourd'hui même. Les magasins dits essentiels, les musées, les bibliothèques rouverts depuis une petite heure. Frédéric Mettezo s'est rendu à Jérusalem dans un magasin de vêtements qui reprend vie après tous ces mois de fermeture.
Depuis presque un an, Laurence Namani et son mari David vendaient par internet. Ou bien, les gens venaient à la boutique sur rendez-vous, pas plus. Mais dès vendredi matin, les clients impatients ont commencé à revenir.
Il y a une amie de ma femme qui a dit « J'ai une bar mitzvah, tu peux pas m'aider ?» Ces personnes-là qui sont là, je ne sais pas qui c'est, sont greffées, peut-être elles sont passées devant, elles ont vu, elles sont rentrées. Et ces personnes-là, pareil. Elle me dit « Mais on veut rentrer. » Je me dis « Mais déjà, on ne doit pas être ouvert. »
Tu peux ne pas mettre un collier aussi.
Cathy, l'amie qui prépare la bar mitzvah de son fils, n'en pouvait plus des achats en ligne.
Ah ouais, moi j'ai beaucoup de mal, franchement. Internet, c'est au petit bonheur de la chance. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Maintenant, on n'a pas de honte à se demander quand on se réunit. Tu es vacciné, tu es pas vacciné. On achète, on est conseillé, on est...
On est chouchouté.
La patronne qui craint les variants du virus est à peine soulagée de rouvrir ce matin.
Il faut savoir quand même qu'on nous permet d'ouvrir en même temps que les centres commerciaux. Et les gens, quand ils ont plein d'achats à faire, ils ont quand même tendance à aller dans les centres commerciaux directement. On ne pense pas que ça va être le dernier confinement. On espère s'en sortir avec le moins de dégâts possible, en fait.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise familiale a reculé de 40%. Il a fallu licencier les 3 employés et fermer définitivement l'autre boutique de la ville. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et puis c'est aujourd'hui aussi qu'Israël met en place son passeport vert, une attestation de vaccination indispensable pour aller dans les salles de sport, les concerts ou les matchs.
Au Niger, c'est le second tour de la présidentielle.
Mamadou Issoufou cède son fauteuil après un double mandat et c'est un duel inédit entre un ex-président et un ex-ministre. Les enjeux du scrutin avec notre correspondant Nathanaël Charbonnier.
Le favori tout d'abord, Mohamed Bazoum, il est arrivé largement en tête à l'issue du premier tour avec 39% des voix. C'est le candidat de la continuité, candidat du parti au pouvoir. À ce titre, il bénéficie aussi d'un soutien financier important qui lui a permis, par exemple, de se rendre dans toutes les régions du pays. Il peut reprendre à son compte une partie du bilan du président sortant, croissance entre 6 et 7% dans un pays qui reste quand même parmi les plus pauvres du monde. Il peut mettre en avant son statut d'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense pour combattre le djihadisme qui touche son pays. Face à lui, Mohamed Ousmane, le challenger, mais pas novice. Ousmane a été président du pays entre 1993 et 1996, avant d'être renversé par un coup d'État. Il a depuis été 5 fois candidat. Économiste de formation, il entend relever le pays après, selon lui, 10 ans de gestion désastreuse du pouvoir sortant. Arrivé second avec seulement 17% des voix, il paraît encore loin de la présidence, mais il peut compter sur un jeu d'alliance compliqué pour peut-être refaire ce dimanche son retard. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Le sang a coulé en Birmanie et ce sont aujourd'hui les funérailles à Rangoon de la première victime de la répression militaire. Une jeune femme de 20 ans devenue icône de la résistance. Hier, les généraux ont donné l'ordre de tirer sur la foule. Deux manifestants sont morts. Condamné ces violences par l'ONU, l'Europe et la France dans la soirée. Facebook, de son côté, a supprimé cette nuit la page principale de l'armée birmane. Une dizaine d'arrestations, quelques blessés aussi de Madrid à Cordoue en passant par Barcelone. Des milliers d'Espagnols à nouveau dans la rue hier après l'incarcération d'un rappeur catalan condamné pour avoir insulté le roi et la police. En bref, encore ces passagers d'un vol United Airlines qui ont eu la peur de leur vie. Le réacteur droit a pris feu juste après le décollage de Denver dans le Colorado. L'avion a pu faire demi-tour, se poser sans problème. Étonnant aussi pour les habitants du coin qui ont eu droit à une pluie de débris. Enfin, on va prendre un petit bol d'air, ça nous fera le plus grand bien. La France en vacances d'hiver, cette année ça rime avec mer. Le soleil, la montée du mercure, les stations de ski paralysées, bref, le combo parfait pour se retrouver sur l'île de Ré par exemple. Reportage La Rochelle, Julien Fleury.
Du vin, des gâteaux, pique-nique de rêve pour Sybille posée sur la plage à la flotte sur l'île de Ré, même si cette Nantaise garde le bonnet et l'écharpe.
Mon chéri m'offre un petit week-end en amoureux, donc c'est extraordinaire en cette période de Covid de pouvoir vivre ça. La mer apporte cette décontraction. On oublie en fait tout ce qu'on vit au quotidien. On sent libre. Il manque quelques degrés peut-être. Voilà.
Quant à l'eau, elle ne dépasse pas 9 degrés. Pas de quoi décourager Paul, 6 ans.
J'étais mouillée jusqu'à là.
Jusqu'en haut des jambes.
Oui. L'eau, c'est super chouette. J'adore. Et mon petit frère aussi. Je le chuchote à l'oreille que là où tu marches, c'est du sable, mais sauf que dessous, il y a une raie. Et un requin et un orque.
Paul venu pour la journée de Niort avec sa maman Aurélie.
Et simplement profiter de la famille. De toute manière, beaucoup de choses sont fermées. Donc on revient à l'essentiel.
Pour Valérie, son mari et leurs trois enfants, c'est tour de vélo sur l'île.
On a des électriques et des non-électriques. Comme ça, tout le monde peut suivre.
La Charente-Maritime, choix par défaut pour cette famille de Châtellerault.
On aurait bien aimé aller skier cette année, mais c'était pas possible. Il n'y a pas de remontée. Et comme on fait du snowboard, donc on profite du soleil ici.
Virée Atlantique également au menu de Paul, parisien de la banlieue sud.
Et même sans les restaurants, franchement, c'est pas mal. Les gens s'en sentent pas. Et la région, elle est magnifique. Il y a la mer, il y a l'air frais. C'est ce qui nous a manqué depuis des semaines. Et voilà, on en profite.
Voilà, le soleil, le grand air, c'est bien. Je me fais un peu rabat-joie. Avec le masque, c'est mieux. Les contrôles, sachez-le, ont été renforcés un peu partout.
Et à propos de la douceur, on fera un point météo dans 5 minutes. Ce sera après les sports.
Avec d'abord cette finale inédite serbo-russe, Djokovic-Medvedev ce matin à partir de 9h30 sur les courts de tennis de l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial, invaincu à Melbourne face au numéro 4 qui enchaîne jeu 7 et match depuis 3 mois. Plus qu'un défi pour le russe, peut-être bien le match d'une vie. Medvedev au micro de Fabrice Abgral et en français s'il vous plaît.
C'est lui le favori, il a joué 8 fois, il a perdu jamais ici donc... D'après moi, je prends le tennis différemment. Pour moi, c'est 50-50. Il y a deux joueurs qui restent. Toujours finale de Grand Chelem, c'est deux joueurs qui étaient forts pendant les deux semaines pour battre Novak, un des meilleurs joueurs de l'histoire de tennis, surtout ici à Melbourne. Il faut être au top dans le tennis, physiquement et mentalement. Et c'est ce que je vais essayer de faire dimanche. Et on va voir après le match ce que ça va donner. On ne sait jamais avant le match.
Medvedev face à Djoko à Melbourne d'ici 1h30 maintenant. Les basketteurs français qualifiés pour l'Euro 2022. Victoire arrachée hier face au Monténégro 73-71. Eux, ils entreront dans l'histoire. Ils s'en seraient bien passés. C'est notre esprit sport ce matin. Triste record pour les rugbymen d'Agen qui ont enchaîné une 16e défaite consécutive depuis le début du top 14. Battue hier par Montpellier. Laetitia Bernard, bonjour.
Bonjour.
C'est le pire début de championnat de toute l'histoire. Agen, le meilleur perdant, en quelque sorte.
Oui, on parle toujours des records des vainqueurs, mais il y en a d'autres moins glorieux qui existent pourtant dans le sport. Et le Sporting universitaire Agen, effectivement, est devenu hier le plus mauvais élève de l'histoire du top 14 avec ses 16 défaites consécutives. Jamais un club n'avait fait un début de saison aussi mauvais. Et si on veut enfoncer le clou, l'équipe ne connaît plus le goût de la victoire depuis un an. Son dernier succès remonte au 22 février 2020. Des défaites qui s'enchaînent, comme hier face à Montpellier, 39-19, ou la douche froide face au Stade Toulousain, il y a un mois, 59-0. Le tout sur fond de nombreuses blessures dans l'effectif, de cas de Covid, de changements d'entraîneur ces derniers mois, et même de bagarres entre joueurs à l'aéroport. Bref, une sacrée tempête. Agen, évidemment, bon dernier du top 14, file tout droit vers la relégation en Pro D2.
Ce statut de cancre est d'autant plus amer qu'Agen est une véritable terre
pionnière de rugby. Une culture omniprésente. Le club a fêté son centième anniversaire, enfin son centenaire. En 2008, il fait partie du top 4 des formations à avoir remporté le plus de titres de champion de France. 8 au total. Le dernier en date remonte à 1988. À l'époque, le Sporting Universitaire à Agen était une référence et comptait des stars dans ses rangs, comme Daniel Dubroca aujourd'hui, mais d'autres grands noms du rugby ont fait partie de cette équipe. On pense à Pierre Berbizier, on pense à Christian Califano, ou plus récemment à Maxime Machenot, ou même à l'arrière Brice Dulin, né à Agen, et qu'on a vu le week-end dernier battre l'Irlande avec le 15 de France, dans le tournoi Destination.
Briller même. Oui, n'empêche que depuis quelques années, Laetitia, Agen a plus de mal à rester dans l'élite.
On voit surtout à la bagarre pour se maintenir ces derniers temps. La Pro D2, il a déjà testé 2007-2010, notamment, et même si le club mise beaucoup sur ses jeunes et a développé son centre de formation, Agen reste l'un des plus petit budget du top 14 et à presque 3 fois moins que les mieux lotis, le Stade français ou le Stade toulousain. Alors maintenant, une urgence, mettre fin à la série noire, gagner à nouveau. Prochaine opportunité dans 15 jours contre le Stade français.
C'est bien noté. Merci Laetitia Bernard. On termine avec juste quelques mots de foot. Le choc ce soir, PSG Monaco au Parc des Princes, 26e journée de Ligue 1. Et puis quand même, les joueuses de Corinne Diacre en match amical hier soir face à la Suisse. 2-0 pour les Bleus, laborieux, mais c'est quand même une belle victoire.
C'était le journal complet d'Hélène Roussel. Le temps de ce dimanche.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et toujours avec cette douceur, Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, dans un flux de secteur sud toujours bien marqué, les valeurs vont comme hier se situer partout entre 8 et 10 degrés cet après-midi au-dessus des normales, voire un peu plus sur le Pays Basque. La situation générale ne change pas par rapport à hier avec le maintien d'un ciel maussade sur l'ouest de la Bretagne, également sur le Languedoc et le Roussillon, et d'un temps sec sur les autres régions malgré un ciel plus voilé entre le sud-ouest, l'Aquitaine et la basse Normandie, avec un vent très turbulent sur les régions méridionales de l'ordre de 90 km à l'heure autour de la Méditerranée, 120 sur les Pyrénées et le sud du Massif central et 100 à 120 km à l'heure pour l'OTAN de la plaine toulousaine à la Montagne Noire.
Jean-Michel Golinski de Météo Sport.